Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Extraordinaire histoire que celle de Aaron Ralston. Je la tire de son livre paru chez Michel Lafon, Plus fort qu'un rock. En 2003, au cours d'une randonnée dans l'Utah, aux États-Unis, la chute d'un rocher vient écraser son avant-bras droit. Il est coincé. Il va mettre 5 jours à oser s'amputer avec un couteau. Et ces 5 jours, nous allons les passer avec lui. Et ensuite, je recevrai Éric Millet, qui a écrit « Survivre » chez Omnibus, un livre dans lequel il recense 15 histoires d'aventuriers qui ont vaincu la mort. Simon Veil m'a aidé à écrire cette histoire. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Je m'appelle Aaron Ralston. J'ai 27 ans. J'habite à Aspen dans le Colorado. Et ma passion, c'est la montagne, le grand frisson. Et aujourd'hui, 26 avril 2003, je me suis bricolé un peu à l'improviste une excursion en solitaire dans le désert de l'Utah. En route, tout en conduisant, les guides de canyoning sur mes genoux, je me suis concocté un parcours de 50 km en VTT et ensuite du canyoning, une enfilade de canyons profonds et étroits. Une bonne journée de balade, quoi. Personne ne sait précisément où je vais. Je vais dans l'Utah. Voilà tout. Je gare mon pick-up, je sors mon VTT, et c'est parti. Direction le canyon de Horseshoe. Le vent souffle de face. Je dois pédaler comme un fou pour avancer. Ça irait si j'avais pas ce sac de 12 kilos sur mes épaules. 3 litres d'eau stockée dans une poche souple, plus une bouteille d'un litre en plastique. 5 barres de chocolat, 2 burritos, un muffin au chocolat, et bien sûr, tout le matériel de rappel. 3 mousquetons à verrouillage automatique, 2 mousquetons ordinaires, 2 élingues jumelles de sangle, plus une longueur de sangle avec 10 anneaux cousus, mon harnais de grimpe, 60 mètres de corde de 10-5 et 7,50 mètres de sangle tubulaire. Et enfin, comme toujours, mon Laserman, mon outil multifonction, 3 lames plus une pince. Je m'en sers rarement, mais je l'emporte toujours. Sans oublier ma lampe frontale, mon casque, mon lecteur CD, mon appareil photo, ma petite caméra DV et les batteries. Ça pèse lourd tout ça, mais c'est indispensable. Vers 10h30, je m'arrête sous un genièvre solitaire pour profiter un peu de l'ombre, tout en scrutant le terrain pour essayer de repérer mon canyon. J'avale mon muffin et je le fais passer en aspirant des gorgées d'eau avec mon tube. L'estomac bien calé, j'enfourche mon vélo et je bataille à nouveau contre les bourrasques. 20 minutes plus tard, un groupe de motards me dépasse. La poussière qu'ils soulèvent m'arrive en pleine figure. Ensuite, je passe Burr Pass et je suis arrivé. Je descends de vélo, je le pousse jusqu'à un petit arbre et j'attache la roue arrière avec mon cadenas en U. Je vois pas bien qui pourrait me barboter mon VTT dans le coin, mais comme dit mon père, pas la peine de tenter le diable. Et je me dirige vers le Blue John Canyon, à travers des dunes de grès rouge et poudreux. Et là, je vois 2 personnes qui marchent devant moi, à 30 mètres. Ah, je suis pas seul. J'accélère pour les rattraper. Ce sont 2 filles. Salut. Ça va? Salut. Salut. Je m'attendais pas à tomber sur quelqu'un dans le canyon. Ou nous non plus. Vous nous avez fait peur. Elles s'appellent Megan et Christy. Elles ont la même passion que moi pour le canyoning. Et donc, on poursuit ensemble. Et on arrive à la première section de descente difficile. Ça passe. Ensuite, un autre escarpement. Et on avance comme ça, tous les 3, jusqu'au fond du canyon. Là où le soleil n'atteint jamais le fond. Là, on se partage 2 de mes plaques de chocolat. On redémarre. On arrive à une branche du canyon vers la gauche. Normalement, c'est là que les filles ont prévu de bifurquer. « Allez, Aaron, viens avec nous. »« Ah non, non, désolé, hein. Je veux faire le goulet inférieur et le rappel du Big Drop. »« Accompagnez-moi, c'est à 12 kilomètres. »« Quoi ? 12 kilomètres ? Mais tu ne seras jamais rentré avant la nuit. Allez, viens avec nous. Non, non. Non, j'ai vraiment envie de faire ce rappel. Je vous fais une proposition, les filles. On se retrouve là où vous campez, au Granary Springs. À mon retour. Ok ? On se sépare à 14h, sourire aux lèvres, en se faisant de grands signes de la main. Et me voilà seul à nouveau. J'attrape mon lecteur CD. Je le mets en marche. Le concert des Fish à Las Vegas. J'y étais.
Why is it I never see the waves which bring her words to me?
Je suis heureux. C'est tout ce que j'aime. De la bonne musique, une solitude totale, de grandes étendues sauvages et la tête vide. La randonnée en solitaire est ma méthode personnelle pour atteindre un état transcendantal. Comme une sorte de méditation, mais en mouvement. Je regarde ma montre. Il est 14h41. J'ai toujours la tête qui balance au rythme de la musique. Je tombe sur une série de trois éboulis que j'escalade. Et j'en vois cinq encore plus loin. C'est étonnant, ça. Autant d'éboulis s'y rapprocher. À un moment, je n'ai plus que 60 cm pour ramper sous la pierre. Je dois ramper à plat ventre. Et là, j'arrive devant un gros éboulis, au moins 4 mètres de haut. Pour passer, il n'y a qu'un tout petit tunnel étranglé, du genre qu'on peut passer qu'en travers, le dos appuyé contre la paroi. Ok. Là, juste au-dessus de la corniche, il y a un bloc de pierre. Ok. Calé contre la paroi, ok, si je peux m'y poser, il me restera 3 mètres à descendre. Je me suspendrai à la grosse pierre, là. Allez, c'est parti. Je descends. Je me pose sur le rocher, il bouge un peu, mais ça va. Je m'accroupis. J'attrape l'arrière du rocher. Je me laisse glisser. Je suis pendu à la roche comme à une gouttière. Et là, je sens la pierre qui bouge. Je lâche, je chute, et là, en l'air, je vois la pierre qui va me tomber dessus. Dans la panique, je me protège la tête avec les deux mains, et comme dans un film au ralenti, le bloc de pierre vient écraser ma main gauche contre la paroi. Je retire mon bras d'un coup sec, le rocher ricoche, et il vient s'écraser sur ma main droite. Au niveau du poignet, la pomme coincée, bras tendu, puis plus rien. Le silence. Je regarde mon bras. Il est coincé contre la paroi du canyon. Et le rocher qui vient de tomber. Douleur. La douleur, mon Dieu. Shit. Bordel de merde. Putain de merde. Je peux compter que sur ma force brute. Il me faut pousser ce rocher. Allez, bouge! Bouge! Rien, putain. Je recommence. Je pousse plus fort. Le rocher a bougé un peu. La douleur, c'est pire. Oh, j'arrive à le remettre comme avant. J'ai soif. J'aspire dans le tuyau de ma gourde. Elle est vide. J'ai une bouteille dans mon sac à dos, sauf que je peux pas l'enlever puisque mon bras est coincé. Je dégage la bretelle gauche. Je passe ma tête dans la boucle. Je fais glisser le sac. Je sors la gourde. Calme-toi, Aaron. La pierre est coincée à environ 1,20 m du sol. Et ma main empêche le bloc de toucher la paroi. Je suis fait comme un rat. Mon pouce est devenu tout gris. Je sens plus rien du tout dans ma main droite. Je sens plus rien au-delà du poignet. Pour dire la vérité, mon poignet est tellement comprimé. Il fait 6 fois moins d'épaisseur que la normale. Je déteste le pessimisme, mais... je suis coincé. Un coup de malchance. Et personne ne sait où je suis. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Face à la mort. ...15h28. Ça fait 45 minutes. Je vide le sac à dos de ma main gauche. Il me reste 2 burritos aux haricots, c'est-à-dire 500 calories. Et le problème, c'est l'eau. J'ai bu trop d'eau tout à l'heure. Il ne me reste que 60 centilitres. Dans le désert. Je peux tenir jusqu'à... après-demain soir. Est-ce que je pourrais creuser autour de ma main avec mon laserman, mon outil multilame, par exemple? Je l'attrape. Je sors la plus longue des 2 lames. Si j'arrive à enlever une épaisseur de 7 cm de là à là, ma main sera libérée. J'essaye encore, mais... c'est du grès. Ça ne fait rien. Le lendemain, dimanche 27 avril, 14h. Taillé, soulevé, rien n'a marché. Je ne vois qu'une seule solution. L'amputation. J'ai une lame, et même 2 sur mon laserman. La plus courte fait 4 cm, elle est la plus tranchante, mais avec, je pourrais pas scier l'os. À part ça, j'ai de quoi me faire un garrot, le tube de ma gourde souple. Non, ça n'ira pas, sinon j'ai de la sangle. Pour la serrer, je peux utiliser un mousqueton. C'est bon, j'ai de quoi aussi à faire pression sur la blessure. Le fond de mon short de cyclisme, c'est un bon absorbant. Mais je sais toujours pas comment couper les os. Juste pour voir, je presse la petite lame de mon outil sur la peau. Ça me dégoûte. Y a trop de veines. T'arrêteras jamais l'hémorragie. Tu vas te vider de ton sang, Aaron. Je me sens pas très bien. Je peux pas le faire. J'ai de la nausée. Je vais crever ici. Cette pierre, Aaron, n'a fait que ce qu'elle avait à faire. Les pierres tombent, hein, c'est leur rôle. C'est toi qui as provoqué ça, Aaron. Tu as créé cette situation. Tu as préféré ne dire à personne où tu allais. Tu as choisi de ne pas suivre les jeunes femmes qui se trouvaient là pour t'empêcher de te mettre dans le pétrin. C'est toi-même qui as créé les conditions de l'accident. Tu te diriges depuis longtemps vers une situation de ce genre, Aaron. Tu as obtenu ce que tu cherchais. J'ai décidé de me filmer. J'allume la caméra.
My name's Aaron Ralston.
Dimanche, il est 15h05.
My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado.
Je m'appelle Aaron Ralston. Mes parents sont Donna et Larry Ralston. Ils habitent à Englewood, dans le Colorado. Celui qui trouvera cet objet, s'il vous plaît, essayez de le leur remettre. Je vous en prie. Ce que vous voyez, c'est mon bras. Il est coincé. Aucune circulation sanguine depuis 24 heures maintenant. Il est fichu. Il me reste environ 1 demi-litre d'eau. Et une seule possibilité, c'est de me couper le bras. Et c'est presque un suicide. Je pense que si je m'amputais, je mourrais. Je pense pas que je tiendrais le coup. Maman. Papa. Je vous aime. J'ai toujours été à l'affût de nouvelles aventures, de nouveaux risques. Je les cherchais. Lundi 28 avril, 7 heures du matin. 40 heures que je suis bloqué ici. J'ai soif. Ma langue colle à mon palais. Mais je veux pas avaler le peu d'eau qui me reste. Et je n'ai toujours pas accepté l'idée de l'amputation. Le garrot que je me suis confectionné avec ma sangle ne suffira pas. Il faut que je l'améliore. L'isolant en néoprène de ma gourde souple. Il est élastique. C'est ça qu'il me faut. J'essaye. Je serre avec le mousqueton. Ah, c'est mieux. Maintenant, l'étape suivante. J'attrape mon outil, je sors la lame, j'appuie sur la peau, je scie. C'est de la merde! Ça n'entame même pas ma peau, bordel de merde! Huit heures et quart. Un corbeau passe au-dessus de moi. Il doit avoir fait son nid plus loin. Quinze heures. Ça fait deux jours. Il me reste 15 centilitres à boire. Demain matin, il n'y aura plus rien. J'allume ma caméra. J'ai réfléchi à cette question. Mon ami Rob Aspen me l'a souvent dit. L'important, c'est pas ce que tu fais. C'est la personne que tu es. Je comprenais pas. J'ai toujours cru que j'étais heureux à cause des choses que je réalisais. Mais si les choses qu'on fait peuvent vous rendre heureux, elles peuvent aussi causer votre malheur. L'une des choses dont je me rends compte ici, c'est que j'ai pas assez profité de la compagnie des autres. Autant que j'aurais dû. Je suis arrivé au stade où je me rends compte que mes chances d'être secouru sont minimes. Je suis foutu. Je vais me dessécher ici dans les jours qui viennent. Si j'avais un moyen d'en finir, je crois que je le ferais. Demain après-midi, peut-être. Et j'ai froid aussi. Je peux pas me protéger du vent. C'est une fin moche. Ouais. Moche.
15h45. J'ai envie de faire pipi, c'est la deuxième fois depuis ce matin.
Comment est-ce possible ?
Pisse dans ta gourde, Aaron. Tu vas en avoir besoin. Minuit. Je vais boire une gorgée de mon urine. Il me reste qu'un demi-verre d'eau. Je veux savoir si je peux supporter d'avaler ma pisse. Ah tiens, c'est pas aussi horrible que j'imaginais. Et du coup, j'ai envie d'avaler la moitié de ce que j'ai pissé. 3h du matin. 60 heures que je suis là. Il me reste 8 centilitres d'eau. Les dernières gorgées deviennent sacrées. Je prie. Je prie pour survivre cette nuit. Mon cœur bat à 120, 60% au-dessus de son rythme habituel. Ma main commence à se flétrir. On dirait une peau de reptile. 5 heures. C'est le moment de sacrifier au rituel de la goutte d'eau. Alors je serre la bouteille entre mes cuisses, je dévisse le bouchon avec ma main gauche. Et merde ! La gourde a glissé. Une giclée du liquide sacré s'est répandue sur mon short, mais combien d'eau j'ai perdu ? Combien d'heures j'ai perdu ? 6 heures. 10 heures, une demi-journée. J'ai l'impression d'avoir sacrifié la moitié de ma vie. On est mardi matin. Il est 6h45. Dans 1h30, mes collègues verront que je ne suis pas arrivé au boulot. J'espère qu'ils le signaleront à la police. J'ai tenté de me couper le bras, j'ai essayé avec toutes les lames, mais j'ai réussi qu'à faire des marques. J'ai même pas pu voir mon sang. Maman, papa, je vous aime vraiment fort. Je vous ai pas apprécié autant que j'aurais dû.
7h58. Je déplie la plus petite des deux lames de mon outil. Je le lève au-dessus de mon avant-bras. Je pique un point à côté d'une tache de rousseur et bam ! J'enfonce la lame de 4 cm. La lumière du canyon vire tout d'un coup au beige. Je bouge la lame. Elle cogne contre une partie dure. C'est l'os supérieur. Je tapote le couteau vers le bas, je sens le radius. En vérité, je sens à peine la lame. Je prends ma bouteille. À cette gorgée, je l'ai bien gagnée. C'était ma dernière goutte. Je défais mon garrot. Je peux pas aller plus loin. J'allume ma caméra. Mens.
Cette séquence, je vous préviens, c'est pas tout public. Maman, regarde pas. Il est un peu plus de 8 heures. Regardez, j'ai tenté. Enfin, je pense avoir coupé le tendon, mais les lames sont pas à la hauteur. Je suis foutu maintenant. J'ai plus d'eau.
Le corbeau passe au-dessus de moi, comme tous les matins. 8h31. Il a 15 minutes de retard par rapport à hier. Midi. J'attends la mort, enchaîné à la paroi du canyon. J'ai encore envie de pisser. 13h30. Je prie, une fois de plus. Mon Dieu, je sais que je vais mourir bientôt. S'il vous plaît, accordez-moi la force de ne rien faire contre moi-même. 16h. Je mange ma dernière bouchée de burrito, plus une gorgée d'urine pour faire passer. Je ne sais pas si je vais passer la nuit qui arrive. 3h du matin. Je mets du baume sur mes lèvres pour retenir ce qui reste d'humidité. Et j'en mets aussi sur ma langue. Ça me fait saliver. Je pensais pas que je pouvais produire encore de la salive. Je suis pas encore au stade ultime de la déshydratation. Jeudi 1er mai. Je n'arrive pas à croire que je suis encore en vie. Je pose la caméra sur le rocher.
Je voudrais être incinéré. Et pour les cendres, je voudrais que Dan Willow, Steve DeRoma, John Jex, Eric Neumeyer et Steve Patchett aillent les jeter au Nouveau-Mexique, à Knife Edge Peak.
Ma main est en train de se décomposer. Maintenant, je comprends pourquoi les insectes sont de plus en plus nombreux. Par curiosité, je me coupe le pouce droit avec ma lame, il s'enfonce comme dans du beurre et j'entends un sifflement. Le gaz ! C'est pas bon signe, ça. La gangrène va bientôt se propager à tout mon avant-bras. Elle va empoisonner tout mon corps. Débarrasse-toi de ton bras, Aaron ! Débarrasse-toi de ton bras. Maintenant. Et là, je me mets à gigoter. Et je sens mon bras qui se tord. Et c'est une révélation. Si je tords mon bras, je peux casser les os. C'est ça qu'il faut faire, bordel de merde. Allez, plus fort, plus fort. Et d'un coup, paf! Comme un coup de pistolet qui claque dans le canyon. Plus fort! Plus fort! Paf! Deuxième coup de pistolet. Les deux os sont cassés à peu près au même endroit. Je tourne. Mon avant-bras est maintenant indépendant du poignet. Je sors mon outil. Je déplie la petite lame. Je l'enfonce jusqu'à la garde. Et je me mets à entailler la peau en évitant les veines. J'enlève le couteau. Je fouille l'entaille avec mon index gauche. Je sens les deux bouts d'os cassés. Là, c'est l'artère. Je la couperai au dernier moment. J'isole un filet de muscle. Je commence à le couper. Je recommence un autre filet de muscle. Merde! J'ai sectionné une veine. Et j'ai pas encore mis mon garrot. Faut que je le mette. J'entoure mon avant-bras à double tour, à 7 cm au-dessous du coude. Je coupe une artère. Et maintenant, j'ai un meilleur accès au tendon. Je tire avec mes doigts. Un tendon, c'est plus solide qu'un câble tressé. Mais j'arrive pas à le couper. Avec la pince, peut-être. Je serre, je tords, je déchire, j'arrache, ça y est! Le tendon est sectionné. Il me reste à couper deux petits filets de muscles, une artère et une mèche de nerf blanchâtre. Je place la lame sous le nerf. Tchac! La douleur! Il me reste plus qu'un bout de peau du poignet. Je l'étire. Je scie contre la roche. Ça y est, je suis libéré. Je suis sonné comme un boxeur, mais je suis libre. Je pose mon couteau sur le dessus du rocher. J'emballe mon moignon avec un sac en plastique. Je pense plus qu'à une chose. Filer. Je fais 50 mètres. T'emballe pas, Aaron, c'est pas le moment. Il me faut 20 minutes pour faire 150 mètres. Et là, j'arrive à une sorte de plateforme. Heureusement, j'ai mon baudrier. Mon système de rappel. Et une longueur de corde suffisante. Je me penche. Il y a de l'eau. Je m'arrime à l'ancrage. Je démêle les 50 mètres de corde. Ne lâche pas cette fichue corde, Aaron. Je sors ma bouteille aux trois quarts pleine de pisse. Je suis prêt pour la descente en rappel. Avec une seule main. Si je lâche prise, je tombe. Laisse filer doucement, Aaron. Un peu plus, voilà. C'est parfait. Et dès que je touche le sol, je me précipite sur la flaque d'eau. Et j'en bois au moins un litre. Il me reste 12 kilomètres avant de rejoindre ma voiture. 12 kilomètres en
en plein soleil. Des empreintes de pas sur le sol. Il y a des gens là, à 70 mètres. Il y a trois randonneurs côte à côte. À l'aide ! À l'aide ! Je suis sauvé. Je suis sauvé.
Ils m'ont envoyé un hélicoptère.
Grimpez !
Ils m'ont amené jusqu'à un petit hôpital. Ils ont voulu aller récupérer ma main pour tenter de me la greffer, mais ils n'y sont pas arrivés. Ils n'ont pas pu soulever le rocher. Il a fallu m'opérer 3 fois en 5 jours. J'avais perdu 21 kilos et 1,5 litre de sang dans le canyon. À la sortie du bloc, j'ai allumé CNN.
L'alpiniste du Colorado, qui s'est amputé lui-même le bras, est actuellement en soins intensifs à l'hôpital.
Et au mois de juillet, grâce à ma nouvelle prothèse spéciale, j'ai recommencé l'escalade et le VTT et le ski en solitaire. Quand on a une vocation, il faut la suivre. Incroyable histoire tirée du livre d'Aaron Ralston chez Michel Lafon, Plus fort qu'un rock. Alors évidemment, j'aurais adoré la débriefer avec lui, mais il habite trop loin, de l'autre côté de l'Atlantique. Et heureusement, j'ai trouvé ce livre, Survivre, témoignage chez Omnibus, présenté par Éric Millet qui est là au téléphone. Vous êtes vous-même d'ailleurs de la même trempe, de la même culture, du même goût pour le risque, si j'ai bien compris. Vous avez réalisé un certain nombre d'aventures et vous avez recensé dans ce livre 15 histoires d'aventuriers qui ont lutté contre la mort, dont cette histoire, à côté de laquelle évidemment vous ne pouviez pas passer.
On peut pas passer à côté de ce qu'a fait Ralston, c'est absolument inimaginable au sens littéral du terme. Et Ralston n'est pas monsieur tout le monde, on s'en rend bien compte.
Et c'est un personnage que l'histoire a retenu, je l'ai découverte en lisant le livre. Mais peut-être que dans le monde de la grimpe, on ne parle que de lui.
Alors, on parle de lui, on parle aussi de Joe Simpson, qui est aussi une des plus remarquables survies de toute l'histoire de l'alpinisme, cet alpiniste qui il s'était parti escalader une montagne au Pérou, et ils se sont trouvés à deux, et pour sauver sa propre vie, son partenaire d'escalade a été obligé de couper la corde sur lequel Simpson était suspendu pour pouvoir échapper à sa propre mort. Et Simpson est tombé dans une crevasse et il a réussi au bout de 3 jours à s'en extirper alors qu'il était complètement broyé. C'est quelque chose d'extraordinaire qui lui est arrivé là. Et donc avec Harold Ralston, ça fait partie des deux grandes survies d'escalade et d'alpinisme de tous les temps, très certainement.
C'est un lieu qui est devenu mythique, je crois. Vous y êtes allé vous-même dans ce canyon?
Alors, Canyonlands aux États-Unis, c'est effectivement le terrain de jeu de tous les aventuriers, que ce soit des vététistes, des parapentistes et principalement des passionnés de varap. C'est un territoire qui est immense. Hein. Le Canyonlands se situe à peu près une centaine de kilomètres en amont du Grand Canyon. Et c'est un territoire où pratiquement personne ne va à part des passionnés, et on peut faire de la rando dans le Canyonlands sans jamais croiser personne pendant plusieurs jours. C'est absolument incroyable.
Une précision, je crois que le rocher en question a été finalement pesé. Je crois qu'il a fallu 13 hommes, c'est ça, pour le soulever.
Oui, tout à fait. Le rocher en question fait quand même 500 kilos. Hein. Donc il était complètement impossible à dégager par un seul homme. Et ce qui est tout à fait incroyable dans cette histoire-là, c'est qu'Harold Ralston était un formateur. Ralston n'est pas une tête en l'air, c'est quelqu'un de très très technique. On le voit d'ailleurs dans la manière dont il raconte son histoire. Mais c'est aussi quelqu'un qui a été formateur, secouriste au Nouveau-Mexique quelques années auparavant. Et les premières choses qu'il disait aux personnes qu'il formait, c'était surtout ne partez pas seul et surtout ne partez pas sans avoir laissé au moins à 3 personnes l'endroit plus ou moins exact dans lequel vous voulez vous rendre, et surtout combien de temps vous allez mettre pour y revenir. Et là, on voit qu'en fait, il a eu tout faux dans son histoire.
Oui, faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est assez banal, hein. C'est courant.
Ah, c'est tout à fait ça.
À votre avis, Éric Millet, est-ce que le statut de gens comme lui, comme vous, prépare à ce genre d'expérience humaine? Parce que on voit qu'il est très rationnel dans sa manière d'évaluer la situation, les perspectives et ses chances de s'en sortir. Il y a un côté très froid que j'ai l'impression que moi-même je n'aurais pas, par exemple.
Alors, dans la survie, absolument pas. L'expérience ne sert absolument à rien dans la plupart des cas. On le voit même d'ailleurs dans le récit d'Aaron Ralston qui, jusqu'à un moment donné, il va d'une manière très méthodique en étudiant tous les problèmes. La première chose qui vient à l'idée de quelqu'un pris en situation de survie dans un premier temps, c'est de est-ce que quelqu'un va venir me secourir ? Ça, c'est la première question. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que je vais parvenir par moi-même à le faire ? Et donc, on le voit dans le cas d'Harold Ralston, il y va d'une manière très très méthodique, en étudiant tout, en se constituant d'abord une suspente pour soulager ses jambes, il se met à l'abri, il commence à rationner son eau, sa nourriture, etc. Il va même, à un moment donné, jusqu'à utiliser sa pince Lederman pour pouvoir commencer à s'amputer lui-même, c'est ce qu'il pense qu'il doit faire, mais il n'y arrive pas. Et on va voir, en fait, que c'est un état second qui va lui permettre de se sectionner le bras. C'est justement quand il a épuisé toutes les choses qu'il devait faire, qu'il rentre dans un état complètement où le corps prend le dessus sur son esprit, sur sa pensée, et que c'est qu'à partir de ce moment-là qu'il va lui-même se sortir de l'histoire.
C'est-à-dire qu'au fond, il ne peut faire ça qu'au bout de 5 jours parce que la main est en train de pourrir et qu'il a vu il a entendu ce gaz se dégager de la blessure.
Ah, tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, c'est pratiquement ce qu'on appelle, quand on est très très fatigué, et certaines personnes l'ont déjà vécu, une sortie de corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se voit être. Et à partir du moment où, au bout du 4e ou 5e jour, son poignet rentre en putréfaction, c'est ça qui va motiver chez lui quelque chose d'incommensurable dans la douleur. Il va surpasser cette douleur, et cette douleur va lui... C'est une espèce d'euphorie qui l'habite à ce moment-là, et justement le fait qu'il ait trouvé la solution pour s'en sortir, qui ne soit pas uniquement une mise en concordance d'un certain nombre de solutions techniques comme il avait pu l'envisager avant, c'est-à-dire bouger le roc, essayer de le déplacer, essayer de se couper le bras, mais ça reste encore une idée, encore, de se couper le bras. Là, sa main complètement en putréfaction va appeler quelque chose dans une autre dimension. Il va savoir à partir de ce moment-là que c'est à lui de se casser le bras, et à partir du moment où ses os sont cassés, ce qu'il ne pouvait pas faire avant avec sa pince, à partir de ce moment-là, il sait qu'il va pouvoir s'en sortir, ça le met dans une euphorie, une rage du sursitaire qui va faire qu'il va pouvoir s'en sortir effectivement.
Est-ce que là, la question de l'âge compte? Il a 27 ans, c'est le cas de beaucoup d'aventuriers, l'âge des grandes aventures, c'est entre 20 et 30 ans, et puis après tout d'un coup, peut-être parce qu'on tombe amoureux, parce qu'on a des gamins, du plomb arrive dans la tête. Mais ça compte quand même, là.
Ouais, alors, de toute façon, effectivement, la résistance physique, l'entraînement, la condition physique, parce que Harold Ralston ne fait pas 90 kilos, hein, c'est un athlète. Donc, il était au début en suspension sur son bras, donc il a dû soulager ses jambes, etc. Donc, on voit bien que, dans un premier temps, le corps, puisqu'il s'agit avant tout de corps dans une histoire comme celle-ci, est un corps en bonne santé. Et c'est aussi parce qu'il est en bonne santé qu'il va pouvoir résister à la déshydratation, qu'il va pouvoir utiliser ce qu'il faut d'énergie dans ce qu'il a, ce qui lui reste de nourriture. Effectivement, s'il était en mauvaise santé ou un peu plus âgé, c'eût été plus difficile pour lui, très certainement.
Il y a dans l'histoire, Éric Millet, d'Aaron Ralston, quelque chose qu'on peut trouver un peu gênant, c'est cette mise en scène devant la caméra, ce côté très, très contemporain. Pourtant, on est en 2003, mais les Américains avaient de l'avance en la matière. Ça vous gêne pas un peu, vous, qui se mettent en scène comme ça?
Je pense que, ça n'appartient qu'à lui. C'est peut-être justement pour conjurer la mort qu'il essaye de théâtraliser sa propre mort.
Il pense pas au documentaire qu'il va produire après?
Personnellement, ça ne m'a pas effleuré. Je pense que plutôt, c'est une manière qu'il a eue de tuer sa propre mort dans un premier temps. C'est-à-dire que puisqu'il va montrer qu'il va mourir, il n'y croit pas, il n'y croit pas. Et justement, en fait, ce film qu'il a réalisé...
Parce qu'il y a eu un documentaire...
En fait, il l'a jamais diffusé, il l'a jamais diffusé, en fait, ce film.
Il n'y a qu'une seule image qui est sortie, j'ai d'ailleurs passé la bande-son, sont les 40 premières secondes qu'il enregistre sur sa caméra, et ensuite, effectivement, le reste, on ne l'a jamais vu.
Absolument. Sa mère lui avait demandé de ne pas diffuser le film et Ralston ne l'a jamais diffusé en fait.
Il y a un documentaire, j'en profite pour le dire, qu'on trouve facilement sur YouTube, qui raconte toute l'histoire au-delà du film de fiction. Vous l'avez vu, le film de fiction d'ailleurs, il est fidèle ou c'est un truc américain un peu
mignon? Non, je trouve que le film de fiction et de Danny Boyle est relativement fidèle. Il a été très documenté. D'ailleurs, il a été largement primé aux Oscars, il me semble-t-il. Il reflète et effectivement. Alors, il y a aussi des scènes qui ont été imaginées, et notamment au début dans la piscine, etc. Mais l'esprit est là et la manière dont Boyle a relaté son aventure est tout à fait remarquable, à mon avis.
Alors, à la fin de l'histoire, il y a un truc qui surprend pas en vérité, parce que moi, dès le début, je me suis dit, il refera de l'escalade, il refera tout ça, il se remettra en danger. Mais enfin, quand même, il reprend l'escalade et le ski en solitaire.
Non, mais c'est un grand bonhomme, Ralston. C'est vraiment l'archétype des fourtineurs américains, c'est-à-dire en fait ceux qui font les sommets de plus de 14 000 pieds. En fait, il y a 60 sommets de plus de 4 000 au Colorado, et lui, on avait fait au moment où il lui est arrivé ça une quarantaine en solo et en hiver. Donc c'est pas n'importe qui, Ralston, quand même. Hein. On est là, sur une dimension particulière.
L'accident lui arrive en mai, en juillet, avec sa prothèse, il est en train de faire un 4000.
Non, mais c'est complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'on est là sur une dimension d'engagement sportif hors du commun, totalement hors du commun.
Avec des gens qui assument le risque, ça, c'est aussi quelque chose qu'on sent bien dans le récit, c'est-à-dire que le risque, il savait qu'il existait avant, il a eu la preuve qu'il existait pendant, et il sait évidemment qu'il existe après. Ça ne change rien.
Absolument rien, on est là sur quelque chose qui transcende. À un moment donné, c'est le corps qui prend le dessus sur les choses qui adviennent. Dans le cas de l'expérience extrême, et on le voit bien avec des gars qui font de la varap sans assurance, et on est sur une espèce de communion avec ce qu'on va rechercher, et ce qu'on va rechercher, c'est le risque, et c'est le risque qui fait monter l'adrénaline, et c'est justement là où on doit être bon. Et Ralston, en fait, était bon dans ce qu'il faisait au moment où ça lui est arrivé. Il a fait une seule erreur, c'est l'erreur du débutant, c'est-à-dire il n'a pas dit où il allait. Et ça, il a vraiment travaillé sans filet, et c'est rien du tout. C'est-à-dire que c'était justement parce que c'était rien du tout qu'il lui est arrivé ça. C'était pour lui une promenade de santé que cet après-midi dans le canyon. S'il avait entrepris l'ascension d'un 4000... Je mets mon bras coupé, je dirais que ça ne le serait pas arrivé.
Merci beaucoup, Éric Millet, auteur de ce livre qui recense une quinzaine d'histoires similaires, dont celle-là, Survivre, publié chez Omnibus. Le livre d'Aaron Ralston, Plus fort qu'un rock, a été publié en 2004 chez Michel Lafon. Vous le trouverez sur le site de Livres d'occasion sur Internet.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.